L'année 2026 s'annonce comme une année monumentale pour le sport mondial avec les Jeux olympiques d'hiver et la Coupe du monde de soccer. Mais derrière la performance, une question demeure. Le sport est-il réellement un terrain de jeu sécuritaire et inclusif pour tout le monde? Pour en discuter, nous recevons Cédric Lemarié, délégué général de la Fondation Fier et président des Eurogames de Lyon qui ont lieu en 2025, donc un expert de l'inclusion des personnes de LGBTQIA+ dans le sport. Bonjour Cédric, bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève.
Bonjour Denis Martin.
Ah, c'est un plaisir. Enchanté. Oui, c'est un plaisir de vous, de te recevoir selon le cas. Cédric, le sport prône le respect et l'égalité. Pourtant, beaucoup, beaucoup de personnes dans la diversité, de la diversité sexuelle et de genre, s'y sentent invisibles ou encore en insécurité. Comment expliquer ce décalage en 2026?
Alors, c'est vrai que le sport se présente comme un espace de valeurs universelles, hein, avec des valeurs de respect, de fair play, d'égalité. Mais il faut bien réaliser que historiquement, les sports modernes se sont construits sur des normes beaucoup plus étroites au XVIIe et XVIIIe siècle, avec une masculinité dominante, une culture de l'hyper-performance, une hiérarchisation des corps, l'invisibilité des minorités. Et il faut bien savoir que cet héritage est toujours bien présent et persiste encore. Donc, en 2026, même s'il y a eu des avancées certaines, notamment au niveau du sport féminin, qui est un peu plus visible, on est toujours loin de l'égalité parfaite. Et ce décalage persiste entre les valeurs qui sont rarement traduites en politique structurelle, hein, au niveau des instances sportives notamment. Par exemple, les gouvernances de ces instances sportives restent en majorité à domination masculine.
Alors concrètement, qu'est-ce que la pratique sportive peut apporter aux communautés de la diversité sexuelle et de genre en termes d'émancipation?
Le sport, c'est un outil vraiment très puissant d'émancipation à trois niveaux, hein. Au niveau individuel, ça permet vraiment de se réapproprier son corps, de construire ou reconstruire l'estime de soi. Ça permet de se dépasser, de se valoriser. Donc, ça permet aussi une certaine autonomisation. Aussi, d'un point de vue collectif, le sport permet de créer des espaces sûrs, de visibilité, de solidarité. Et puis, enfin, d'un point de vue politique et même symbolique, le sport permet d'exister dans des espaces publics. Ça permet aussi de contredire les stéréotypes et de créer de nouveaux récits. Donc, on voit bien que c'est un outil puissant pour autonomiser les personnes et avoir une meilleure citoyenneté.
On va parler d'un peu de ce qui va se passer en 2026. La FIFA organise un Pride Match, c'est même historique, à Seattle le 26 juin prochain. Un grand pas, mais un match qui oppose l'Égypte et l'Iran, deux pays où l'homosexualité est illégale. Est-ce que c'est un espèce de signe d'espoir ou une provocation malheureuse, qu'on peut dire, de cette décision ou de cette proposition?
Alors oui, des fois, il y a parfois des coïncidences qui peuvent vraiment interroger profondément. Le fait que le match des fiertés organisé par la FIFA World Cup 2026 à Seattle oppose Iran et Égypte, qui sont deux pays où les droits humains sont vraiment bafoués et où l'homosexualité est criminalisée, ça peut être perçu comme vraiment pas anodin du tout. Et dans cette ironie, moi, ce que j'aimerais y voir, c'est plutôt une opportunité majeure de mettre en lumière les droits humains. À savoir quand même, c'est le moment de rappeler que les terrains de sport et en particulier les terrains de football doivent rester des espaces de liberté, de respect et d'équité. Et là où certaines sociétés ferment les portes, hein, telles qu'en Iran ou en Égypte, le sport a la responsabilité de les laisser grandes ouvertes à toutes et à tous. Donc ce match, c'est vrai que ça doit devenir un moment fort de sensibilisation contre toutes les discriminations, pour la dignité des droits et les droits humains. Et puis, ça doit faire aussi un peu écho aux luttes des peuples et des minorités, et notamment dans ces deux pays.
On sait que
pour moi, c'est vraiment, au final, un match qui est porteur d'espoir, s'il est fait correctement et organisé correctement par la FIFA.
D'ailleurs, je lisais dans Le Monde là, que la FIFA a dit que le match était maintenu malgré la protestation des deux pays. Mais si les deux pays décident de ne pas y participer, qu'est-ce que devrait faire la FIFA à ce moment-là?
Alors oui, alors vous l'avez dit, hein, faut être lucide, les deux pays ont dit qu'ils étaient refusent enfin, toute expression explicite liée aux fiertés et à l'inclusion des personnes LGBT. Alors on n'est pas surpris par ce positionnement, mais surtout ça ne doit pas être un prétexte à l'inaction hein, et à laisser passer. Donc pour moi, la responsabilité de la FIFA, elle est vraiment claire. La FIFA a vraiment ce rôle de pouvoir mettre en valeur les valeurs, enfin, mettre en avant les valeurs universelles du sport et de bien montrer qu'elles ne sont pas optionnelles ni négociables. Donc vraiment, ce que doit faire la FIFA, c'est vraiment assumer pleinement ses propres messages institutionnels, hein, indépendamment de la position de ces deux équipes. C'est aussi, alors je ne sais pas si l'événement aura lieu, mais s'il a lieu, garantir la sécurité, la visibilité, la dignité des joueurs et des supporters LGBTQI+ autour du stade et pendant le match. Et puis c'est surtout une opportunité de communication. Hein, la FIFA a le pouvoir d'encadrer strictement le protocole du match et donc de bien diffuser des informations de lutte contre les discriminations, d'inclusion des personnes LGBT dans le sport. C'est vraiment en fait une opportunité pour la FIFA de communiquer sur ces aspects.
Surtout que j'aimerais quand même rappeler le fameux fiasco du brassard One Love hein, au Qatar. Est-ce que la FIFA, dans ce cas-ci, joue sa crédibilité avec ce qui se passe là, présentement, dont on vient de parler, avec l'Iran et l'Égypte et le match Pride?
Bah, clairement, hein, je joue ça, c'est vraiment un test de crédibilité, hein, parce que ça a été, comme vous l'avez dit, hein, ça a été un fiasco au niveau de l'épisode du brassard pendant le Qatar. Au Qatar, on a bien pu voir que la FIFA s'était un peu assise sur ses valeurs. Et donc, ça a vraiment envoyé un message de fragilité morale. Donc là, la FIFA a le moyen de se récupérer. Soit elle montre qu'elle a appris et qu'elle a entendu et qu'elle souhaite vraiment mettre en avant les valeurs du sport. Soit, bah, en fait, elle confirme que l'inclusion, pour elle reste conditionnelle et variable selon les contextes politiques et économiques, auquel cas elle se discrédite encore, totalement.
Vous avez présidé, Cédric, les Eurogames de Lyon. C'est encore nécessaire de nos jours, d'avoir des événements sportifs réservés aux personnes de la diversité sexuelle et de genre, et pourquoi?
Alors, juste un point aussi de correction, hein, c'est les événements sportifs tels que les Eurogames ou même les Gay Games ne sont pas exclusivement réservés hein, aux athlètes LGBT, QI+, mais c'est ouvert à toutes et à tous sur la base du partage des valeurs d'égalité, d'inclusion et de diversité.
Merci,
Mais,
merci de la
et...
correction, oui.
Donc, mais oui, ça reste tout à fait nécessaire. On en a juste parlé. L'égalité dans le sport n'est pas encore là. Et des événements tels que les Eurogames permettent vraiment d'ouvrir des espaces de sécurité où les athlètes LGBTQIA+ peuvent vraiment jouer sans aucune discrimination, se sentir à l'aise et se sentir en sécurité. Donc c'est vraiment ce genre d'espace qu'on souhaite encore et qu'on a encore besoin d'ouvrir, malheureusement, de nos jours. Ça permet à certains et certaines de pouvoir entrer ou revenir au sport. Ça leur permet aussi de performer sans se cacher. Puis c'est aussi, je dirais même, la réussite des Eurogames, c'était vraiment un moyen de montrer qu'un autre modèle sportif est possible et que l'inclusion de toutes et tous est vraiment possible. Pour exemple, que la mixité permet aux personnes transgenres, non-binaires, de participer pleinement aux compétitions sans que cela ne pose le moindre problème. Et donc, c'est vraiment un exemple pour les fédérations de sport. Et ça leur démontre qu'en fait, c'est juste une volonté politique de leur part de le rendre possible.
Il me reste à peu près 2 minutes et j'aimerais vraiment qu'on parle de ce grand événement, les Jeux olympiques Milan-Cortina, puis avec ça, évidemment, la Coupe du monde, ici au Canada, au Mexique, aux États-Unis. Ça serait quoi votre souhait le plus cher pour l'inclusion des athlètes et des supporters de la diversité à ces événements-là?
Mon souhait le plus cher, eh bien, écoutez, c'est que les athlètes et les supporters, les bénévoles qui participent à ces grands événements sportifs puissent le faire sans se poser la question de leur sécurité, de leur visibilité et de leur légitimité. Ils sont tout à fait légitimes d'être là et d'être eux-mêmes. Il faut vraiment que l'inclusion ne soit plus un sujet exceptionnel qui est abordé un petit peu à la marge, comme j'ai pu voir dans certains événements, et que ça soit et ça devienne vraiment une évidence opérationnelle, hein, et que on puisse que ces grands événements sportifs, ces compétitions puissent vraiment laisser aussi un héritage concret d'inclusion et de lutte contre les discriminations qui est vraiment mesurable et qui permette aussi d'infuser au niveau des clubs et des associations de sport. Hein, c'est en montrant et en donnant l'exemple que, en fait, on permet à ces valeurs de diffuser et à ces bonnes pratiques d'être aussi adoptées par les plus petits clubs, par exemple.
Oui.
Ça serait vraiment mon souhait. On y travaille vraiment ardemment au sein de la Fondation FIER pour le réaliser. Et voilà, c'est des étapes qu'on doit franchir les unes après les autres, mais c'est un travail passionnant et on voit quand même quelques résultats avancer. Ça avance.
Bien, on va terminer là-dessus, Cédric Lemarié. Donc, je rappelle que vous êtes directeur général de la Fondation FIER. Puis, on va suivre de près hein, ce match historique de la Coupe du Monde parce que c'est pas loin ici, le 26 juin. Et on espère peut-être vous voir au Canada aussi pour la Coupe du Monde.
J'adorerais venir, tout à fait.
Bien, merci beaucoup, Cédric.
Merci aussi.